la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Nous sommes le jeudi 21 mai 2026 et il y a plusieurs jours, Flavie Flamand a porté plainte contre Patrick Bruel pour un viol qu'elle a subi lorsqu'elle avait 16 ans. Moi, à 16 ans, j'écoutais le footcast, j'étais amoureuse de mon prof de Zumba, je chantais du Chaim et je ne connaissais pas encore Radio Campus Paris. Mais surtout, à 16 ans, je pensais que les grands, les adultes, avaient toujours raison. Je pensais que nous, les ados, on devait bien la fermer. Je pensais que quand on était jeune, quand on était des filles, on devait jouer le beau rôle, celui de la gentille petite fille qui sourit, qui se tait, qui reste bien à sa place, qui est polie et qui se laisse faire. Donc oui, à 16 ans, on ne se rend compte de rien. On ne réalise pas les choses, on ne réalise pas qu'on vit des agressions ou du harcèlement. On se dit, c'est normal, on se dit que c'est comme ça et que la vie se passe. Et donc oui, c'est parfois 30 ans plus tard qu'on se rend compte des choses, que ça ressurgit, que ça fait l'effet d'un disque rayé qui tourne en boucle dans notre cerveau et qui ne peut plus s'arrêter. Donc oui, Flavie Flamand a porté plainte plus de 30 ans après les faits. Oui, elle a pris du temps. Mais aujourd'hui, elle se sent assez forte, assez en confiance pour le dire, pour confronter son agresseur et porter cette affaire en justice. Je pourrais vous dire, essayez de vous mettre à sa place. Sauf que personne n'a envie de se mettre à la place des victimes. Personne ne veut se mettre à notre place. Parce que ce n'est pas agréable d'être une victime. Ce n'est pas prestigieux d'être une victime. C'est long, c'est douloureux et ça coûte trop cher en séance de thérapie. Parce que quand on est une victime, on nous apprend à nous taire, à rester bien à notre place, à dire bonjour et à faire un bisou. Pas à ouvrir nos gueules, pas à monter sur la table, pas à faire du bruit et donc pas à dénoncer nos agresseurs. Ce soir, dans la matinale de 19h, dans le grand entretien, Alice reçoit Maxime Collin, chargé de mission juridique à France Nature Environnement, et Camille, militante au soulèvement de la Terre, pour parler du projet de Giga Data Center en Seine-et-Marne. Ce soir, c'est le C'est quoi ton taf? Sarah reçoit Olivier Thiénot, fondateur et directeur de l'École du vin de France. Il nous parlera de son métier de sommelier. Rachel nous parlera du festival du livre queer et féministe de Montreuil, qui aura lieu ce week-end à Montreuil, dans sa chronique actu. Et Astrid nous parlera de la taxe rose dans sa chronique libre. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'entretien de la matinale.
La matinale de 19h, Radio Campus Paris.
Maxime Collin, bonsoir.
Bonsoir.
Et Camille, bonsoir.
Bonsoir.
Alice, c'est à toi.
Lors du dernier sommet sur l'intelligence artificielle qui s'est déroulé à Paris en début d'année dernière, en février précisément, Emmanuel Macron a annoncé qu'allait être créé, je cite, un immense campus d'une capacité de 1 gigawatt dédié à l'IA. Et ce, grâce au fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis MGX, de l'entreprise française Mistral IA, de la Banque publique d'investissement et de l'éditeur de logiciels Nvidia pour un total de 50 milliards d'euros. Il est prévu que ce Giga Data Center, c'est non pas Date, oui, mais ça, Data Center, sorte de terre à Fouju, une commune rurale de 650-655 habitants en Seine-et-Marne. Alors pour en parler, tu l'as dit Diane, nous sommes avec Maxime Collin et Camille, respectivement de France Nature Environnement et Soulèvement de la Terre. Bonsoir encore à tous les deux. Première question, quelle a été votre réaction quand vous avez vu ce tweet de Emmanuel Macron, ce communiqué, ou même, j'ai parlé du communiqué, mais il y a eu des concertations un petit peu plus en amont. Quelle a été votre réaction en tant que membre et citoyen à cette annonce? Membre d'une association environnementale et citoyen. Camille, vas-y, je t'en prie.
Oui, j'étais très surprise de l'ampleur, de la taille des projets, car des data centers de cette taille, 1,4 gigawatt, ça n'existe pas encore, en tout cas pas en France, pas en Europe, et la somme dédiée à ces projets est également faramineuse. Lors du sommet de l'IA que vous avez mentionné, c'était 109 milliards d'euros qui étaient annoncés pour l'intelligence artificielle en France. Là, ce projet, ça représente 50 milliards d'euros d'investissement. Donc voilà, ce qui m'a le plus étonné, c'est la taille de gigantisme du projet.
Et pour ma part aussi, une grande, enfin pour notre part, dans l'association, ça faisait quelque temps qu'on essayait justement de jouer un peu un rôle d'observatoire de l'émergence de l'économie numérique sur le territoire francilien. Et on voyait arriver beaucoup de projets de data center. Et ils étaient tous de plus en plus grands, mais en tout cas sans commune mesure avec ce projet-là, qui est vraiment à tous égards le plus important projet de data center d'Europe, de l'histoire de la France. Mais en tout cas, il risque de le rester aussi longtemps, le projet le plus important.
Oui, justement, pour que les auditeurs et auditrices se rendent un peu mieux compte de cet énorme projet de data center, ce serait l'équivalent de 11 centres de données et ce qui équivaut à 125 terrains de foot. Donc voilà, quelque chose vraiment d'énorme. Si on essaie de s'imaginer ça, même ça, c'est compliqué. Et on l'a un petit peu, enfin, vous l'avez un peu évoqué dans votre préambule, l'ambition du gouvernement, c'est donc de créer le plus grand data center d'Europe. À votre avis, pourquoi cette course assez folle au toujours plus grand ?
Je pense qu'il y a, il y avait un enjeu à montrer aux investisseurs, du point de vue de l'État français, du gouvernement français, de montrer aux investisseurs que la France était le nouveau terrain d'accueil des data centers. Et surtout le point d'entrée en Europe aussi des investissements liés à l'économie numérique, au data center. Donc de faire vraiment de Paris le hub européen des data centers. Et voilà, après ce qu'on a découvert depuis, parce que ça fait quelques temps, finalement c'est que c'est pas seulement Paris, c'est aussi, donc il y a des projets qui ont fait parler beaucoup à Marseille. Et depuis, il y en a véritablement sur tout le territoire. Donc finalement, c'est un phénomène qui est français maintenant.
Je ne sais pas si Camille, tu veux ajouter quelque chose.
Tout à fait d'accord.
La semaine dernière, l'association France Nature Environnement et les Soulèvements de la Terre, ainsi que la Ligue pour la protection des oiseaux, une représentante de la Confédération paysanne et aussi des citoyens engagés sur place à Fouju, donc. Vous avez participé donc, à une conférence de presse un peu improvisée. Vous avez notamment déploré la façon dont les constructeurs ont obtenu la déclaration d'utilité publique indispensable pour débuter les travaux. D'ailleurs, il y a une question de date qui a été avancée, qui s'arrête, enfin, la consultation s'arrête le 30 mai au lieu du mois de juin. Donc, une forme de rapidité aussi pour ce projet-là. Maxime Collin, vous qui êtes juriste à France Nature Environnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce principe d'utilité publique ? Comment ça fonctionne ? Qui le délivre ? À quoi ça sert ?
Oui. Alors, c'est pas exactement ça. Justement, des déclarations d'utilité publique, c'est un outil justement que nous, on a l'habitude d'appréhender, moi en tant que juriste, mais les associations de protection de l'environnement, tous les bénévoles travaillent souvent sur des outils qui sont souvent les mêmes, des autorisations environnementales, des enquêtes publiques, des déclarations d'utilité publique qui permettent d'exproprier. Et sauf que cette fois-ci-là, sur ce projet-là, on a des outils assez extravagants, assez nouveaux, qui apparaissent, notamment un nouvel outil qui vient d'être façonné, pas pour ce projet, mais en tout cas pour les data centers, qui est la notion de projet d'intérêt national majeur. Et c'est ça qui risque d'être déclaré pour ce projet-là. Et ça a pas mal de conséquences, et justement ça offre au projet une apparence d'utilité publique. Donc c'est pas vraiment une déclaration d'utilité publique, justement, parce que normalement c'est des vrais actes administratifs. Là, ça va donner justement, ça va c'est le moyen pour l'État de dire ce projet-là, on en a besoin de manière stratégique,
en fait,
dans notre stratégie pour exister, etc. Donc c'est vraiment voilà, un moyen pour l'État de dire, il faut qu'on aille plus vite sur ces projets-là. Ce qui fait que les conséquences, c'est qu'après, bah, tout l'impact sur la biodiversité, il sera simplifié. Enfin, il sera simplifié, c'est-à-dire qu'on pourra plus difficilement contester l'intérêt public de ce projet-là. Mmh. Parce que, voilà, par exemple, si on détruit des espèces protégées ou des habitats d'espèces protégées, on doit démontrer que c'est plus important, l'intérêt que porte ce projet-là est plus important que l'intérêt de protéger ces espèces. Mmh. Et bien, en fait... là, on va considérer que c'est plus important, sauf que c'est l'État qui le décide. Et ce ne sera pas, ce sera même pas au porteur de projet de démontrer que son projet va servir l'intérêt général. Et sur ce projet-là, c'est assez intéressant parce qu'on est sur un projet justement qui ambitionne de assurer une souveraineté de la France sur les données. alors que c'est un projet qui est porté par un maître d'ouvrage qui vient qui est un fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis. Donc ce que je veux dire, c'est qu'ils auront beaucoup de mal à démontrer l'intérêt général de ce projet. Et donc, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'apparaît une législation qui permet justement plus facilement de permettre à l'État de décider ce qui est d'intérêt général, ce qui ne l'est pas. Et on voit que dans ce projet-là, ça a un intérêt particulier.
On reparlera un petit peu après de la question de la souveraineté, justement, un des arguments qui est avancé par le gouvernement en partie. Mais sur cette question de date, là, dont je parlais juste avant, alors on a bien compris que donc là, il y a une législation qui est apparue, qui est assez nouvelle, mais le fait que là, la concertation d'associations ou citoyens s'arrête plus tôt que prévu, est-ce qu'à votre avis, vous qui êtes engagé dans des associations pour la protection de l'environnement, est-ce que ça signifie cette accélération, est-ce que ça signifie selon vous que les constructeurs, les porteurs de ce projet-là se doutaient qu'il allait avoir des contestations et que ça allait un peu moins passer? Du coup, c'est une manière pour eux d'affaiblir le contre-pouvoir, entre guillemets?
Oui, il y a aussi, de toute façon, sur la procédure qui est suivie, c'est du jamais vu sur la rapidité
d'exécution.
En fait, on n'a jamais vu ça. C'est jamais arrivé, par exemple, qu'il se passe aussi peu de temps entre une concertation publique, qui est vraiment le moment où on consulte le grand public, sur les impacts du projet, mais à un moment, un stade où le projet, c'est juste une idée. Et c'est juste, eux, ils ont défini à peu près leurs besoins, mais globalement, ils ne savent pas encore exactement comment ils vont l'articuler sur le terrain. Donc, ils ont fait ça il y a très peu de temps, c'était à la rentrée dernière. Concertation auxquelles on a tous contribué, etc. Il y a eu une réunion publique qui n'a pas permis beaucoup de s'exprimer, mais il y a eu une réunion publique. Et ça, c'est d'ailleurs un argument pour aujourd'hui ne pas organiser de réunion publique pendant l'enquête publique, parce qu'elle a déjà été faite avant, sauf que ça n'a aucun... c'est pas du tout le genre... C'est pas du tout les mêmes garanties d'information du public, parce que la concertation, c'est quelque chose d'important. Nous, on était d'accord de s'y associer, de jouer ce jeu-là. Mais en tout cas, ça n'a pas les mêmes effets. C'est que là, on a juste pu savoir un peu plus sur le projet. Normalement, il se passe plusieurs années, en général, entre le moment où on fait une concertation publique et l'enquête publique. Là, on est déjà à l'enquête publique, quelques mois seulement après. Et entre-temps, on sait qu'il y a eu une procédure fast-track auprès de, donc qui a permis à l'État d'imposer à RTE d'utiliser... Enfin, c'est une nouvelle procédure qui existe pour les data centers, notamment, qui permet de faire avancer, d'imposer aussi un besoin énergétique. Donc, on a besoin d'installer tant de puissance énergétique pour nourrir le data center. Bah, ça a avancé en quelques mois aussi, alors que normalement, c'est aussi des choses qui mettent des années au moins quelques mois à se faire, parce que RTE va devoir construire beaucoup d'infrastructures.
Le
gestionnaire du réseau électrique, il va devoir construire des infrastructures pour pouvoir raccorder tous ces data centers au réseau national électrique. Donc tout ça s'est fait très rapidement. Et l'enquête publique, on a pris le choix, je le précise aussi, de l'ancienne procédure d'enquête publique qui dure un mois. Et pour lequel ce n'est pas obligatoire de faire une réunion publique. Ils n'ont pas fait de réunion publique, ils ont fait une enquête publique à minima. On a demandé dès le départ à ce qu'elle soit étendue sur 3 mois au lieu d'un, sur 2 mois, au lieu d'un, et puis qu'il y ait une réunion publique qui soit organisée. Et ce qui nous a été répondu, c'est que on n'allait pas organiser une réunion publique parce qu'il y en a déjà une pendant la concertation, alors que ça n'a rien à voir, et que on pouvait pas, on risquait pas d'augmenter la durée de l'enquête publique parce qu'il fallait aller vite et que le gouvernement voulait que ça aille vite sur ce projet. Donc, à ce stade, on a quand même une consultation à minima.
Je pense qu'on va se laisser sur une petite pause musicale et on va continuer notre entretien juste après. On va écouter Dolorène de RIP.
Je vais péter vos testos, Mac. Baissez vos yes, ma cacla, parce que ça crie vos autres.
Mais j'ai pas le vertige, j'me le rêve dans ma tête depuis que j'ai 20 bis. Soundboy fait le fuckboy, mais ça sent le piston. Pigeon abattu en pleine voltige. Old boy au top, mais j'ai pas le vertige, j'me le rêve dans ma tête depuis que j'ai 20 bis. Soundboy fait le fuckboy, mais ça sent le piston. Pigeon abattu en pleine voltige. Le FM, c'est des tarés comme dans LFM, c'est le LFS dans ma tête, tout le mal est fait. Allumant le pire des mammifères, j'ai un peu de mal à m'y faire. Je pull up dans une manif et je vois la vierge Marie dans la soucoupe comme un flatteur. Ultra laser comme les flatteurs, charbonne comme moteur à vapeur. Parfois le meilleur élève à tort. Il disait que j'étais pas cap. Quelques cadavres dans le placard. Caribéen comme un pas quoi. Connais les plages et les braquages. Oh shit, je me soumets aux analyses. Mais le mystère est entier comme le regard de Mona Lisa. Oh, je vois la concurrence qui s'enlise et je laisse des empreintes comme un putain d'yeti dans le blizzard.
Watch out, fuck that. Faut que tu coupes le contact. Le bouc au fait flipper et je l'immortalise dans le Kodak. Watch out, fuck that. Faut que tu coupes le contact. Le bouc au fait flipper et je l'immortalise dans le Kodak.
Mais j'ai pas le vertige, j'me le rêve dans ma tête depuis que j'ai 20 bis. Soundboy fait le fuckboy, mais ça sent le piston. Pigeon abattu en pleine voltige. Old boy au top, mais j'ai pas le vertige, j'me le rêve dans ma tête depuis que j'ai 20 bis. Soundboy fait le fuckboy, mais ça sent le piston. Pigeon abattu en pleine voltige.
Et vous venez d'écouter R.I.P. de Dolorein.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Et les 19h17, vous écoutez toujours la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Nous sommes toujours avec Maxime Collin, et, chargé de mission juridique à France Nature Environnement, et Camille Desolosement de la Terre. Alice, c'est à toi, je te laisse reprendre l'interview.
Oui, on parlait de l'enquête publique juste avant la pause. Est-ce qu'en tant que citoyen, il y a des choses qu'on peut faire par rapport à cette enquête publique qui se termine donc le 30 mai prochain ? Camille ?
Oui, vous pouvez répondre à l'enquête publique. C'est une procédure qui est ouverte à tout le monde. Donc n'importe quel citoyen, citoyenne peut en ligne chercher sur le site du registre numérique l'enquête publique sur le projet Campus IA et répondre en quelques minutes. C'est vraiment extrêmement simple et c'est ça qui permet de donner de la force aux arguments contre le projet. Voilà, ça prend quelques minutes, tout le monde peut le faire. Et on est actuellement à près de 700 contributions, ce qui est particulièrement important pour un projet de ce type.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans les détails justement sur les risques environnementaux que vous, association, vous dénoncez ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets ? On ne pourra pas tout dire, mais des exemples assez parlants pour les auditeurs et les auditrices.
Oui, bah, au-delà du prix, 50 milliards, etc., il y a vraiment la puissance électrique installée nécessaire que va engloutir l'ensemble de ces 11 data centers, finalement, parce que c'est un data center, le Campus IA, mais c'est quand même 11 bâtiments de data centers, qui pourraient justifier des data centers très importants contre lesquels il pourrait y avoir des luttes ailleurs. Mais là, c'est tout d'un coup. C'est 150 mégawatts, 1400 pardon, mégawatts de puissance nécessaire, ce qui est inédit. Il n'y a pas d'autres data centers de cette puissance-là. Et les autres sont plutôt en dessous de 100 mégawatts. Donc, voilà, un data center de 100 mégawatts, c'est déjà quelque chose d'énorme. Ça représente 17% de la consommation électrique tout confondu, donc même les industries de l'Île-de-France. Donc voilà, c'est 17% de notre énergie aujourd'hui consommée qui va partir directement dans un data center. Qui d'ailleurs, je le précise, est destiné à 100% à l'IA. Et en particulier à l'IA générative. Donc c'est pas n'importe quoi non plus. Enfin, c'est pour des usages qui sont particulièrement éloigné de nos intérêts. Et puis, ces 17%, ça fait à peu près 2,5% de la consommation électrique totale aussi de la France. Donc voilà, on est sur un projet de cette ampleur-là. Alors ça fait qu'il faudra faire l'une des plus grosses installations de raccordement de France électrique. Donc ça, c'est aussi beaucoup de champs magnétiques, beaucoup de conséquences aussi de production. Ça nécessite beaucoup de métaux pour construire toutes ces installations de raccordement, tous ces réseaux aussi. Voilà, c'est aussi quelque chose pour lequel il faut créer, si jamais il y a des coupures de courant, une instabilité sur le plan électrique, il faut compenser avec des générateurs de sécurité, parce qu'ils ont un concept dans les data centers qui est la permanence du stockage et du transfert de données. Donc ils ont besoin de compenser si jamais il y a un problème. Et pour ça, bah, c'est la plupart du temps des générateurs qui fonctionnent au fuel et qui créent, beaucoup de pollution de l'air pour fonctionner si jamais il y a un problème, mais aussi parce qu'ils sont testés tous les mois, donc ça très régulièrement. Donc en fait, ça crée beaucoup de tensions sur la qualité de l'air aussi. C'est les gaz à effet de serre, c'est aussi de la pollution de l'air. Et puis, c'est aussi des fuites, parce qu'il y a donc tous ces générateurs. Là, c'est des centaines de générateurs qui seront installés en cas de secours pour ce data center. Ils ont prévu eux-mêmes, le projet a prévu 15 tonnes de fuites par an.
Les polluants éternels dont on entend parler depuis plusieurs semaines.
Et ces fuites, ce serait des PFAS. Donc,
Juste pour préciser, les PFAS, c'est un composant des fluides de refroidissement, puisque un data center, en fait, c'est composé de serveurs, et les serveurs, c'est comme n'importe quel ordinateur, ça chauffe, donc il faut les refroidir. Et là, ils ont fait le choix de ne pas utiliser d'eau, au moins pour le début du projet, mais donc il faudra des fluides de refroidissement, environ 500 tonnes de PFAS sur le site, et avec 3% de fuite par an, ça fait 15 tonnes de fuite de PFAS par an au cœur de la campagne de Seine-et-Marne.
Oui, d'ailleurs, les chiffres...
Sachant qu'il y a juste une nappe phréatique à cet endroit-là, qui est la nappe du Champigny, qui nourrit la plupart des aires de stockage de Seine-et-Marne. Il y en a beaucoup qui ferment à cause des pesticides, etc. Mais donc, il y en a de moins en moins des aires de captage. Et c'est juste en dessous. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des pollutions, ça peut polluer les nappes qui nous permettent, qui constituent notre eau potable.
Oui, justement, j'allais préciser aussi que vous n'avancez pas tous ces données de nulle part. Il y a eu un avis indépendant qui a été rendu par la mission régionale de l'autorité environnementale le 8 avril dernier, et qui explicite d'ailleurs des caractéristiques, je cite, « hors normes en termes de consommation énergétique, d'empreinte carbone et de consommation foncière ». Et d'ailleurs aussi, une chose qu'on n'a pas trop évoquée, mais en Seine-et-Marne, 59% de la surface est dédiée à l'agriculture. Donc on peut aussi s'imaginer que pour les sols, vous avez commencé à le dire, mais voilà, pour les sols, en termes de qualité, d'impact, voire de réduction et tout simplement de disparition de ces sols, ça a aussi un énorme impact. Et ça rejoint ce que vous disiez aussi sur le fait que c'est pour de l'IA, donc assez éloigné des réalités quotidiennes des gens. D'ailleurs, dans les réunions publiques, quand j'ai lu 2-3 articles, des gens demandent concrètement, mais à quoi ça va nous servir? Et ça, justement, j'imagine que vous êtes allé sur place, que vous avez rencontré des citoyens qui se mobilisent contre ce projet. Est-ce que pour eux, c'est important que des associations comme les vôtres défendent que ce soit pas un projet, au final, qu'ils ne voient pas le jour? Est-ce que ça leur donne un peu aussi d'espoir et de crédibilité, entre guillemets, à leur cause, et ils se disent, on fait pas ça pour rien?
Oui, alors sur place, il y a différents collectifs qui sont pas forcément à Fouju même, même si on connaît quelques personnes de Fouju, mais des collectifs globalement du département et des associations. Et donc tout ça, ça nous permet de travailler vraiment collectivement entre différentes organisations pour se mobiliser ensemble contre les projets. Donc à la fois avec des associations locales, on a la Confédération Paysanne, puisque le projet devrait artificialiser l'équivalent de plus d'une centaine de terrains de foot. On a par exemple France Nature Environnement, donc Île-de-France, et puis Seine-et-Marne. On a la Ligue de protection des oiseaux, les soulèvements de la terre, Extinction Rébellion, des collectifs comme ça. Mais on a également des collectifs qui sont un peu plus larges, ou en tout cas qui sont au courant du projet. Par exemple, des projets qui luttent contre l'impérialisme extractiviste, puisque les serveurs seront aussi construits avec des matériaux qui viendront de l'autre bout du monde. Il y a également un projet de prison juste à côté du projet de data center. Donc il y a vraiment un large panel d'associations et de collectifs à mobiliser. Après, du côté des habitants, ça fait longtemps qu'ils savent qu'il y aura un projet sur ce site. Ils se sont aussi battus contre le projet de prison sans succès, donc c'est assez compliqué pour eux de ne pas être résignés face à ce projet. Mais on essaye au moins de se mobiliser et de montrer, par exemple lors de l'enquête publique, qu'il y a des oppositions contre ce projet Campus IA.
Alors, il y a des oppositions, mais malheureusement, il y a aussi des politiques qui sont plutôt favorables, notamment le maire de Fougeux, Jonathan Vaukenmeyer, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais il y a aussi des députés plutôt droite républicaine, Jean-Louis Thieriot, et le président de la communauté de communes de Brie-des-Rivières et Château dont fait partie Fougeux, Christian Poteau, qui d'ailleurs, vous parliez de le fait que la nappe ne soit pas pompée au moins au début du projet, et c'est selon lui, un des critères qu'il fallait respecter pour que l'environnement, ça soit OK. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant, j'imagine.
Non, pas du tout, parce que c'est vrai que c'est la plupart des projets de data center, les grosses incidences qu'elles ont, c'est l'artificialisation des sols, qui est la première cause d'extinction de la biodiversité. Donc, c'est très important. Et là, sur ce projet-là, c'est particulièrement ça qui nous inquiète. Hein, c'est 70 hectares, c'est voilà, 125 terrains de football, vous le rappeliez, qui vont être engloutis pour ça. Et puis, c'est aussi l'impact que ça a sur les ressources en eau, parce que ça crée beaucoup de réchauffement. Le data center, ça crée des, voilà, il y a des gros îlots de chaleur. Et donc, ils ont besoin de faire refroidir tout ça. Et en général, la technologie la plus courante, même d'ailleurs c'est quasiment tout le temps utilisée, c'est refroidissement grâce à l'eau. Et ça, énormément, enfin, c'est très consommateur en eau. Et là, ils utilisent une technologie un petit peu différente, tu pourras, si tu veux en parler, qui est moins... qui crée moins de tension sur la ressource en eau. Mais voilà, ça ne fait pas disparaître les autres enjeux. Et puis, on voit au travers de ces fuites de PFAS dans les nappes, et puis aussi pendant les travaux, parce même pendant les travaux, il va y avoir des risques de fuite très importants. Donc même pendant juste ces aspects qui sont normalement des petits aspects des projets, et bien là, sur un projet de cette importance-là, ça va avoir des impacts assez démentiels.
Oui, en fait, pour compléter, ce qui a été vendu aux maires et à la communauté de communes localement, c'est l'apport d'emplois, le développement du territoire, etc. Mais même le département, dans son avis, souligne que le nombre d'emplois, donc les environ 500 emplois qui sont annoncés pour être créés sur place, c'est un nombre extrêmement faible au regard de la taille du projet, des investissements et du nombre d'hectares artificialisés. Donc même le département souligne ça, et au-delà de ça, il y aura énormément de nuisances et de pollution qui seront vécues par les habitants localement. En premier lieu, les personnes qui seront dans la prison qui sera construite juste à côté, mais aussi les personnes des villages alentours. On peut parler de bruit, on peut parler de pollution atmosphérique, on peut parler de mauvaises odeurs, on peut parler d'énormément de pollution comme ça qui vont impacter très localement tous les habitants.
Et juste pour on disait qu'ils utilisaient une technique qui faisait moins de pression sur la ressource en eau, mais pour autant c'est pas une absence de pression, c'est que en fait justement ils ont compté beaucoup sur cet aspect un peu symbolique de nous on va pas pomper dans les nappes. Sauf que le projet il est séparé en trois phases et c'est souvent comme ça qu'ils font pour limiter l'impact apparent du projet, c'est le faire en plusieurs phases. Et ben en fait pour la première phase effectivement ils vont pas pomper pour refroidir dans la nappe, mais pour les deux autres phases, ils indiquent qu'ils vont le faire. Donc finalement, on a une partie qu'on n'arrive pas à quantifier du projet qui va nécessiter, qui va fonctionner à 100% sur la technique du refroidissement par l'eau. Donc en fait, on a vraiment on ne se rend pas compte aujourd'hui de l'impact que ça va avoir sur la ressource en eau. Donc on ne peut pas dire qu'il est nul, donc c'est pour démonter un peu cet argument-là. Puis après, il y a un autre aspect aussi très, très, sur justement ce découpage qui permet de limiter la conception qu'on a, enfin la compréhension qu'on a de l'impact, c'est sur le risque industriel. Tous ces générateurs, etc., ça crée un risque d'incendie très fort et on peut facilement avoir des explosions, voire des incendies. On va avoir tout cumulé, tout ce que ça va, tous les produits cumulés sur place. On sera juste en dessous du seuil Seveso, seuil haut, qui est le seuil des plus grosses usines et les plus dangereuses usines de France, d'Europe même. C'est hors norme finalement. C'est assez peu. Il n'y en a pas 10 000 en France des installations Seveso.
Et je pense qu'on va clôturer cette interview maintenant. Merci beaucoup Maxime Collin d'être venu à Radio Campus et Camille. Le site où on peut du coup participer
à
l'enquête publique, oui, est-ce que vous pouvez le rappeler?
Oui, c'est registre-numérique/epu-campus-ia. Sinon, vous cherchez sur votre moteur de recherche le moins gafamisé possible. Et vous pouvez également chercher Linktree Stop Campus IA pour avoir toutes les informations sur les mobilisations. Notamment, on organise un rassemblement ce dimanche.
Ok, super. Merci beaucoup.
Merci
Alice pour ton interview. Et tout de suite, on va écouter L'Enfer, c'est les autres de Oh No. Et on se retrouve juste après. L'enfer c'est, l'enfer, c'est les autres de Oh No. C'est tout de suite l'heure de la chronique Actu.
La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris.
Rachel, c'est à toi.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous. Ce soir, j'aimerais vous parler du SLAP, le festival du livre queer et féministe qui aura lieu ce week-end pour sa 4e édition à la Parole Errante à Montreuil. Alors le SLAP, c'est quoi ? Ce sont des dizaines de maisons d'édition, de revues, fanzines, bibliothèques réunies pour présenter leurs ouvrages, mais aussi des lectures, tables rondes, débats, conférences, ateliers, performances et concerts, un jardin et un bar et de quoi manger pour tout le monde, les grands, mais aussi les plus petits qui sont invités à certains ateliers, sinon accueillis à la garderie organisée par le collectif La Bulle. Alors pourquoi je vous propose d'aller au SLAP ? D'abord parce que samedi soir, il y aura un combat de catch d'Evian et Antifa, et ça... ensuite, parce que vous avez la possibilité de rencontrer des artistes trop trop chouettes et d'acheter des livres trop trop cool sans donner d'argent à Vincent Bolloré. Et ça, c'est vraiment génial. Et oui, vous n'êtes sûrement pas passé à côté des deux derniers coups de tonnerre au sein de l'empire culturel Bolloré. Un, l'annonce par Maxime Saada, directeur de Canal+, du boycott des professionnels du cinéma signataires d'une tribune anti-Bolloré. Et deux, un mois plus tôt, le licenciement d'Olivier Nora, patron de la maison d'édition Grasset, qui a entraîné l'organisation de nombreux auteurs et autrices qui menacent de partir. Alors, ces nouvelles prises de décision bolloresques font un peu peur et sentent mauvais, parce qu'elles ressemblent à un rétrécissement de la liberté d'expression et de la liberté de création. Le problème aujourd'hui, c'est que les trois quarts du secteur de l'édition en France appartient à seulement cinq groupes, les deux premiers étant Hachette de Bolloré et Editis de Kretinsky. Cinq groupes donc qui possèdent aussi une grosse partie des médias, de la presse et des distributeurs, donc qui décident ce qui est mis en avant dans les librairies. Je vous laisse deviner quoi. Vous savez un peu quels derniers livres ont fait du bruit ces derniers mois. Mais heureusement, une petite partie du secteur de l'édition reste dans les mains des indépendants. Certaines de ces maisons d'édition seront présentes au SLAP et sont aussi disponibles dans les librairies indépendantes, qui sont elles aussi en danger. Partout en France, les librairies indépendantes dénoncent des intimidations, des tags, des vitrines vandalisées, des perquisitions hors du commun. Mais surtout, elles crient famine, voyant leurs subventions réduites à peau de chagrin, alors que leurs charges fixes augmentent. C'est notamment le cas des Mots à la bouche, dans le 11e arrondissement de Paris, librairie LGBTQIA+, depuis 1980, qui a posté la semaine dernière un appel à solidarité sur Instagram, demandant des actions concrètes de la part des élus, mais aussi et surtout l'aide précieuse des lecteurs et des lectrices. Alors, mon conseil aujourd'hui, c'est lisez, mais pas n'importe quoi, et achetez des livres, mais pas n'importe où. Ça aussi, c'est une manière de résister et de lutter. Au SLAP ou dans vos librairies indépendantes, vous pourrez d'ailleurs sûrement acheter l'ouvrage collectif Débordé Bolloré, publié par un groupement d'éditeurs et d'éditrices indépendantes il y a presque pile un an. Aujourd'hui, les choses vont tellement vite qu'on pourrait rajouter beaucoup d'articles dans ce livre pour actualiser les décisions du milliardaire. Mais vous en apprendrez déjà beaucoup sur son empire vertigineux et ses projets, sur l'état du monde du livre et de l'édition aujourd'hui. Il vous donnera aussi des clés pour résister et désarmer Bolloré. Pour le festival, toutes les infos de l'événement et le programme du week-end sont sur leur compte Instagram. N'oubliez pas de prendre de l'argent liquide parce que l'entrée, c'est prix libre, mais sur place, pas de carte bleue, sauf peut-être sur certains stands de livres. Et moi, je vous dis à ce week-end à Montreuil, au SLAP.
Merci beaucoup, Rachel, pour cette chronique littéraire et culturelle. Tout de suite, c'est l'heure du « C'est quoi ton taf ?»
Mais dis-moi, c'est quoi ton taf ?
Deux jeudis par semaine, dans la matinale de 19h.
Et ce soir, pour le C'est quoi ton taf, on reçoit Olivier Thiénot, fondateur et directeur de l'École du vin de France. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Et ce soir, c'est ma très chère Sarah qui va vous interviewer et on va parler du métier de sommelier.
Bonsoir Olivier, merci pour la présentation Diane. Alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui.
Vous êtes sommelier, auteur, chroniqueur, conférencier et fondateur et directeur de l'École du vin et des spiritueux de France.
Mm-hmm.
Vous proposez des formations en vin certifiantes à Paris et à Lyon, si je m'abuse. Yeah. Pour une mise en bouche, ma première question est la suivante. En quoi consiste exactement le métier de sommelier ?
Alors le métier de sommelier, il est divers selon qu'on soit en France, en Europe, dans le monde. On va faire simple, la définition du sommelier, c'est la personne qui source et sert les boissons, dont les vins principalement, en principe dans des restaurants ou des bars. C'est ça, le boulot de sommelier.
Très bien. En me renseignant du coup sur vous et votre métier de sommelier, j'ai pu voir que vous aviez eu un parcours atypique, si je puis dire, de par vos débuts en études de droit, puis par votre passage en événementiel qui vous a fait découvrir le monde du vin. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes dirigé vers la sommellerie par la suite et avez-vous fait une formation officielle ? Est-ce que ça existait à l'époque ou est-ce que vous êtes formé sur le terrain ?
Alors, il y a beaucoup de personnes qui font de la reconversion, parce que ça reste un métier passion, c'est comme celui de caviste. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de passerelles. Un sommelier, il travaille pas forcément dans un restaurant, il travaille chez un caviste, dans un bar à vin. Il peut aussi être responsable F&B dans des hôtels. Là, bientôt, je pars en Inde. Ils commencent à découvrir le vin. Ils sont complètement fous là-dessus. Donc, j'ai l'impression que... Voilà. Et les Gouttes de Dieu, par exemple, le livre et la série y ont évidemment contribué. Donc, c'est un métier assez ouvert. Nous concernant, c'était une passion. Mais comme je ne venais pas forcément de la restauration, Je me suis reconverti, j'ai fait des cursus de formation courts qui n'existaient pas il y a 25 ans ou 30 ans en France. Donc j'étais les faire à Londres, parce que Londres étant un endroit un peu neutre dans le vin, c'est-à-dire qu'en gros, dans le monde du vin, on dit que les Français produisent, les Anglais vendent et les Américains consomment. Enfin, ça, c'était à l'époque, hein. C'était avant Trump. Donc, résultat, il y a une vraie connaissance que les Anglais, en fin de compte, pourquoi ils faisaient plein de formations ? Parce qu'ils n'avaient pas envie de se faire rouler quand ils allaient en France, en Italie ou autre. Ils voulaient savoir ce qu'ils achetaient. Donc, c'était là où se trouvaient les formations.
Très bien. Et vous parliez justement de caviste, de travailler en restaurant, d'être directeur food and breakfast, c'est ça, FMB ?
Food and beverage,
oui. Food and beverage, pardon. Et du coup, concernant la gastronomie au niveau des restaurants, j'imagine que ça doit dépendre des établissements, mais en ce qui concerne tout ça, au niveau des accords mets-vins, quels sont vos procédés ? Et est-ce que vous êtes en relation avec le chef, en relation étroite avec le chef pour proposer des produits compatibles, ou est-ce que vous allez improviser avec le menu imposé déjà ?
Alors là, ça va dépendre et de la carrure et du caractère du chef.
Bon, okay.
Si vous êtes sommelier des Chebest, vous dites oui chef, on va passer ça, c'est lui qui va décider du solide. En gros, c'est un mariage solide-liquide. Donc il y a pas mal de chefs qui s'intéressent beaucoup au vin. Et donc, ils vont évidemment travailler avec le sommelier, mais il y a quand même des accords de principe, il y a des accords de saison, il y a aussi des accords qui vont se faire selon la personne. Là, par exemple, et je sais, Sarah, que vous n'y avez vu aucun inconvénient, j'ai amené un vin.
Oui, donc, parce que je tiens à dire que du coup... C'est du travail, c'est totalement du travail.
Mais absolument, j'ai amené mon instrument de travail.
C'est autorisé dans le code du travail.
Exactement.
Non, c'est du travail, on peut même recracher, enfin bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, ce que je disais, c'est que un vin, par exemple, là, il commence à faire chaud, ça ne va pas être le même que s'il fait 0 degré. Donc déjà, la température va jouer. Quels sont nos clients ? C'est pourquoi, si on est un peu un gastro, un peu business, en fin de compte, quand vous allez acheter, quand vous allez commander un vin, c'est peut-être plus pour épater la personne en face, oui. Parce que c'est ou un client ou autre. Alors que si c'est un restaurant un peu expérientiel, on va chercher des choses un peu plus funky, du nature, des pétnates, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, des cépages qu'on connaît moins. Voilà, exactement. Donc ça va dépendre du lieu, ça va dépendre des accords, ça va dépendre du moment. D'accord. Et donc tout ça, le sommelier doit avoir cette intelligence-là. Et c'est la même chose pour le cuisinier. C'est-à-dire que le chef, il fait un menu selon la saison, selon les produits. Enfin voilà. Et il faut d'ailleurs essayer qu'il soit le plus locavore possible. Donc il prenne des choses qui soient vraiment de saison et à côté de chez lui. Ben, c'est la même chose pour le vin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout d'un coup un endroit où on fait pas attention à ce qui se passe autour de nous. Il faut que ça soit la même chose.
Voilà. D'accord, merci. Et il faut du coup, j'imagine, en tant que sommelier, rester aussi à l'affût de tout ce qui va être nouveauté. Vous parliez justement de pétnat, de vin nature, la biodynamie. J'imagine aussi que ça doit être très effervescent en ce moment.
Alors oui, mais c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui est rageant dans notre métier, je le dis parce qu'on n'est pas l'antenne, hein, personne ne nous entend.
Non,
nous écoute,
personne ne nous
entend. Merci, merci. J'ai eu peur, je me suis dit, on ne sait jamais, c'est public. C'est que nous, on aime bien apprendre et en fin de compte, qu'une fois que c'est appris, c'est bon, on sait tout. D'accord. D'ailleurs, les sommeliers, ils ont un peu cette réputation, c'est tout, comme ça, ils prennent les gens de haut. Ça, c'est les anciens sommeliers. Et les nouveaux sont quand même plus accessibles. Mais la vérité, c'est qu'on apprend tout le temps.
D'accord.
Donc, ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre au niveau. Mais attention, on ne consomme pas de la même façon dans un palace à Cannes que
dans un bistrot de quartier.
Voilà, là on est dans le 11e, hein, c'est ça ?
Troisième,
mais bon, voilà, on ne consomme pas de la même façon. Et donc, de ce fait, ça va dépendre aussi de la localisation du lieu. Mais quoi qu'il se passe, il faut se mettre, il faut se tenir au courant parce que les goûts changent.
Oui. Oui, et puis les tendances également, j'imagine, même au niveau de l'alcool.
Exactement.
Et vous parliez justement des sommeliers qui connaissent tout.
Oui.
Comment on éduque son palais, justement ? Et est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure ? Est-ce qu'au bout d'un moment, on va être rodé et ça va être plus simple ? J'imagine que oui, mais comment éduque-t-on son palais ?
Alors, on l'éduque et puis après, on se crée une bibliothèque.
D'accord.
D'où le fait qu'il faille s'entraîner tout le temps. En fin de compte, c'est un peu comme quand on joue de la musique ou même le sport. En fin de compte, on ne peut pas être sportif de haut niveau si on ne s'entraîne pas. C'est la même chose pour la sommellerie, c'est la même chose pour d'autres choses. C'est-à-dire que voilà, on va travailler régulièrement ses sens. C'est-à-dire qu'on va goûter, on va s'interroger sur le vin, on va faire dégustation à l'aveugle. Ça va être très important. Et d'ailleurs, je vous réserve une petite surprise qui n'est pas sympathique, hein, vous allez m'en vouloir. Je vais vous tester pour voir si vous avez des aptitudes à la sommellerie, mais je vous laisse poser votre question avant que je vous teste.
Au niveau du nez ou au niveau du goût?
Au
ou
niveau
les deux
du nez. Du nez.
J'ai hâte. Et bien justement, tout à l'heure aussi, vous parliez de la température. La température du vin en termes de saison, en termes d'environnement, mais en termes de conservation, est-ce que la température joue un rôle important, voire primordial, dans le goût du vin ou dans le prix du vin? Est-ce qu'un grand cru conservé à une mauvaise température est-ce qu'il devient obsolète?
Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ça, c'est le job du sommelier. C'est-à-dire qu'il doit faire attention, mais c'est comme un chef, il y a une histoire de cuisson. Mmh. Pour le vin, c'est un peu moins sophistiqué que la cuisson. Il y a des températures plus frais pour le vin blanc parce qu'on va essayer qu'il soit, en fin de compte, qu'il soit avec plus d'acidité, plus de fraîcheur, qui nous ouvre l'appétit. Pour certains crus, dont on va chercher la puissance, ça va être évidemment un peu moins froid. Donc tout ça, évidemment, mais le sommelier, c'est le béaba de son job.
D'accord. Hein,
donc il y a ça pour le service. Et puis il y a la conservation. La conservation, c'est que si, par exemple, demain, je sens que vous allez ouvrir un restaurant, je le sens. Et donc, j'ai senti dès le début.
C'est des rencontres avant tour de campus.
C'est ça. Et donc, vous allez voir que vous allez faire du stock. Alors vous essayez de moins possible, sauf si vous avez beaucoup d'argent. Bon, j'ai compris que vous n'avez pas demandé à l'honorer. Par contre, vous n'avez pas lui demandé.
Non, je ne pense pas.
Il ne sera pas rentré en capital. Mais si un autre vous prête, vous allez stocker. Et de là, vous allez essayer d'avoir, par exemple, une cave qui est à température ambiante, à autour de 12-13 degrés.
D'accord.
Parce que le vin est un produit fragile. Et plus, d'ailleurs, en fin de compte, vous avez parlé de biodynamie, de vin nature. Et en fin de compte, ce sont des vins dans lesquels on intervient le moins possible. Et de ce fait, ils seront légèrement plus fragiles. Et ça va me permettre de vous demander à chacune la petite fiole que vous avez, qu'est-ce que vous avez senti? Donc vous?
Moi, je ne saurais pas dire. Je vais dire un truc très sucré, mais ça se trouve, c'est pas
mais
ça.
Mais non,
du tout.
Allez-y.
Non, quelque chose de très sucré.
Bah oui, quoi?
Du raisin.
Du raisin, ok.
Moi, de la terre.
De la terre.
Du pamplemousse.
Alors, c'est elle qui va devenir sommelière.
Bravo.
C'est comme ça que ça se passe, les entretiens pour rentrer à l'école.
C'est génial. Ouais, c'est pas plus compliqué. Hein. Alors, ce que vous aviez, c'était du cassis.
Okay.
Elle, c'était de la fraise. Et
ah oui.
Voilà. Alors, non, mais c'est très amusant. Non, mais il n'y a pas de don. Ça se travaille.
Ça
s'apprend. C'est tout. Voilà.
Eh bien, justement, ça s'apprend. Et pour une introduction sur le vin, je vous invite donc à aller regarder les vidéos qu'Olivier propose sur YouTube, car j'ai vu que vous proposiez pas mal de petites leçons pour
c'est
en
ça.
Apprendre plus sur le vin.
Exactement.
Et si vous aimeriez approfondir vos connaissances et vous professionnaliser par la suite, toutes les formations en vin sont disponibles et détaillées sur le site de l'École du vin et des spiritueux de France, école fondée par notre invité du jour dans C'est quoi ton taf, Olivier Thiénot. Merci Olivier d'avoir répondu à nos questions,
Merci à mes questions.
Et à bientôt.
Merci
à bientôt.
Beaucoup à vous deux. Merci, c'était passionnant. Et même si je ne bois pas d'alcool, je trouve ça passionnant. Donc, comme quoi, tout est possible. Et maintenant, on va écouter Making Flippy Floppy de Talking Heads.
Everybody,
get in line. Nothing can come between us. Nothing gets you down. Nothing strikes your fancy. Nothing turns you on. Somebody is waiting in the hallway. Somebody is falling down the stairs. Set someone free. Break someone's heart. Stand up. Help us out. Everything is divided.
C'était Making Flippy Floppy de Talking Heads. C'est toujours la matinale de 19h. Il est 19h53 et 10 secondes. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique clip de Astrid.
La matinale de 19h. 93.9 FM.
Astrid, c'est à toi.
Bonjour à tout le monde. Shampoing, coupe, coiffage, combien ça vous coûte ? Ça dépend. Et plus précisément, de votre genre. En moyenne, les hommes payent 21 euros pour ce service contre environ 30 euros pour les femmes, même si monsieur a les cheveux longs et madame une coupe courte. Résultat, presque 47% de différence. Et ce n'est pas le seul exemple. On retrouve ces écarts dans les rayons vêtements, chaussures ou produits d'hygiène. Le caleçon pour homme, 10 euros. La culotte pour femme, 15 euros, malgré moins de tissu. Même le rasoir coûte plus ou moins cher selon le rayon où vous l'achetez, homme ou femme. En moyenne, il faut ajouter 25% de plus pour un produit rose. Cette différence de prix selon la couleur, ou plutôt selon le genre, porte un nom. La taxe rose, ou pink tax. Il s'agit surtout d'une technique marketing qui consiste à vendre les produits destinés aux femmes plus chers que ceux pour les hommes. Et cette taxe rose n'a rien de nouveau. Pour la première fois, elle est évoquée en Californie, aux États-Unis, dans les années 1990. À l'époque, on parle de women tax. Face à ces inégalités de prix selon le genre, la Californie interdit la facturation différente pour des produits ou services équivalents destinés aux hommes et aux femmes. Les États-Unis vont même plus loin avec des lois interdisant aux entreprises de pratiquer ces prix différents selon le genre ciblé. Mais entre-temps, la taxe rose a déjà fait carrière. Elle est le résultat du marketing ultra-genré des années 1970. À cette époque, les attentes envers les femmes augmentent. Il faut être belle, prendre soin de soi, être à la mode et s'adapter à toutes les occasions. Pour cela, les femmes sont poussées à acheter des produits de beauté et de mode spécifiquement conçus pour elles. Et depuis, peu de choses ont changé, en tout cas pas en France. La taxe rose touche les filles dès la naissance, avec des jouets souvent plus chers que ceux destinés aux garçons. Et ça continue toute la vie. Le pire, cette taxe rose est une double peine. À l'échelle mondiale, les femmes gagnent en moyenne 19% de moins que les hommes. Autrement dit, avec un budget plus faible, elles doivent acheter des produits beaucoup plus chers. Les États-Unis ont déjà fait un premier pas contre ces écarts. En France, comme dans d'autres pays européens, la taxe rose reste encore peu encadrée. Les marques expliquent ces écarts par des coûts de production plus élevés. Mais alors, pourquoi le même rasoir BIC coûte-t-il moins cher en bleu qu'en rose? Ça sent quand même un peu l'excuse. Et malgré plusieurs tentatives, le gouvernement français n'a toujours pas mis en place de véritable stratégie pour lutter contre cette inégalité. En attendant, une vraie loi contre la taxe rose, mieux vaut comparer les prix et acheter au rayon homme.
Merci Astrid pour cette chronique marketing et féministe. C'est déjà la fin de cette matinale et... C'est déjà la fin de cette matinale. Elle était en compagnie de Alice pour l'interview et de son invité Maxime Collin, chargé de mission juridique à France Nature Environnement, et de Camille, militante des soulèvements de la Terre. Merci à eux. C'était avec Sarah pour le C'est quoi ton taf et son invité Olivier Thiénot pour le métier de sommelier. Et on fait un petit erratum. Oui, Sarah avait le bon odorat, donc c'est une future sommelière. Merci à Raphaël et à Astrid pour leur chronique. Joé était à la réalisation. C'était Diane à l'animation. Et c'était bien sûr les meilleurs de toute la Terre, Jeanne et Aude, les best à la coordination. L'équipe de la matinale de 19h retrouve lundi même heure. Et tout de suite, c'est le Happy Hour scientifique. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris.